François Roux, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous retrouve avec Tout ce dont on rêvait. On avait beaucoup aimé votre roman précédent, Bonheur national brut. Je voulais savoir quelle était l'idée de départ, d'où est né ce livre et cette histoire.
Je pense qu'elle est née de l'idée du chômage, en fait. Parce que j'ai été touché de très près, pas personnellement, mais... Le chômage a été quelque chose qui a été... le chômage longue durée a été quelque chose. Et j'avais envie de témoigner de ça parce que je trouve qu'on ne parle pas beaucoup... En plus, on ne parle pas beaucoup du chômage des cadres supérieurs qui existe et qui n'est pas un fantôme social. Ça existe vraiment. Et puis aussi, je trouve qu'on parle souvent du chômage d'un point de vue purement économique. On parle de l'avoir et on oublie peut-être un peu l'être, c'est-à-dire ce que devient l'homme ou la femme d'ailleurs, enfin, l'être humain quand il traverse ces périodes-là. Et donc, déjà, moi j'aime beaucoup travailler sur la matière sociale, sur le contexte politique, économique, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de contextualiser de faire en sorte que la vie de mes personnages soit extrêmement liée, non pas à l'actualité pour l'actualité, mais parce que la vie des gens, les gens, ils ont une vision politique, ils vivent dans un système économique donné, et j'aime bien traduire ça dans mes romans, donc autour de ça, petit
alors,
à petit...
Le chômage, après, voilà, ouais. C'est ça, il faut en faire un roman, une histoire, et comment celle-ci est venue, comment s'est imposée à vous, parce que là, vous allez plonger ce thème du chômage au sein d'un couple, voir quel effet, quelle répercussion ça peut avoir sur un couple en particulier.
Oui, après, il y a des choses comme ça qui se greffent de manière... J'ai même pas d'explication à ça, c'est-à-dire que après l'imagination fonctionne, on laisse les choses, c'est comme ça que je travaille en tout cas, on laisse les choses pénétrer l'imaginaire et puis tout d'un coup il y a effectivement une structure familiale qui se met en place. Moi j'aime beaucoup aussi parler de la psychologie des personnages, donc comment est-ce que le poids de leur passé, de leur histoire personnelle intervient tout au long de leur vie, comment est-ce qu'on est un peu prisonnier de son histoire personnelle. Et puis c'est l'occasion aussi, pas tout d'un coup, tout ça c'est des choses qui sont très souterraines. Je pense que quand on écrit un livre, il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent que quand une fois qu'on les a exprimées. C'est des choses dont on a envie de parler et tout d'un coup, peut-être qu'on, c'est comme si on tirait à soi une corde et puis qu'on voit que cette corde, elle n'a pas un seul nœud, mais elle a plusieurs nœuds, des ramifications et tout d'un coup, il y a tout un monde qui s'ouvre en fait. Et là, en l'occurrence, c'est l'occasion aussi pour moi de parler de la manière dont certaines personnes sont passées, par exemple, de l'extrême gauche au Front National. Parce que, bon, alors là, je travaille avec des gens, des spécialistes. J'ai travaillé avec Pascal Perrineau qui m'a.
Que vous remerciez.
Que je remercie
à la
parce que c'est.
Livre.
C'est ça m'intéressait d'observer le comportement de gens qui sont très en colère, qui ne sont pas nécessairement des défavorisés, des gens qu'on voit, dont on pense. Obligatoirement qui vont voter Front National. Donc ça m'intéressait de parler de ça. Ça m'intéressait de parler de l'addiction, par exemple. Donc j'ai vu le chef psychiatre de l'hôpital Marmottan, qui est un personnage étonnant. Parce que tout ça, c'est lié, en fait. Par exemple, l'addiction, enfin, j'en parle dans le livre, paraît être une représentation extraordinaire du consommateur parfait. Donc, en fait, de ce que le capitalisme moderne offre de plus... tangible.
Oui, c'est la version la plus sophistiquée ou on va dire la plus perverse.
La plus perverse.
Pour vous du capitalisme. Bah,
c'est-à-dire qu'en fait, dans les années 68, ce que je dis dans le livre, on disait, il est interdit d'interdire, il faut se laisser ses passions agir, enfin, etc. Et du coup, les publicitaires ont repris ce genre de slogan, adonnez-vous à machin d'Yves Saint-Laurent. Vous voyez, il y a une sorte d'injonction comme ça à vivre. À se dépasser soi-même et à dépasser ses passions, qui fait qu'à un moment donné, on vient effectivement, à force de faire ça, on devient addict. Et donc, vous voyez, il y a une espèce de jeu de miroir comme ça qui m'intéresse aussi.
Alors, il y a en effet un tableau ici très précis du chômage et de l'effet que ce chômage peut avoir sur un homme. Alors, bien sûr, il y a les effets qu'on connaît, économiques, matériels, mais aussi l'effet psychologique, comment un homme peut être détruit et comment aussi le chômage peut miner un couple. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant et que c'est peut-être la littérature qui peut le mieux dire ces choses-là.
Je pense que le poids de la fiction, enfin l'intérêt de la fiction, c'est de rendre de l'empathie pour les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas décrit de manière purement chirurgicale. Tout d'un coup, ça prend une réalité et on peut s'identifier à ces personnages. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère que les gens feront. En s'identifiant, on comprend mieux les drames des gens, et c'est ce que la fiction arrive à faire par rapport à quelque chose qui serait plus documentaire.
Donc là, c'est le cas de Nicolas, qui pourtant, dans le couple qu'il forme avec Justine, est toujours apparu comme le pilier fort, qui l'a soutenu, cette Justine très, très névrosée, il faut le dire. Donc il a toujours été là, le pilier du couple, le pilier de cette famille. Et puis, d'un seul coup, on le voit s'écrouler.
Toutes les certitudes qu'il avait, et ça, c'est des choses que j'ai notées justement en observant les gens qui étaient dans la même situation, c'est-à-dire que au départ, on est assez content. On se dit, en général, si bon, lui, en l'occurrence, il s'est fait virer pour des questions de doublons induits, puisque sa société a été rachetée par une autre société. Donc, tout d'un coup, il se retrouvait à être en parallèle à probablement quelqu'un de plus jeune. Ça, j'en parle pas, mais c'est ce que j'ai imaginé dans ma tête. Et puis, il se dit, finalement, le jour où il ne doit pas aller travailler, et il reste chez lui, il dit, finalement, c'est une occasion formidable qui m'est donnée de changer ma vie. Voilà. Souvent, ça marche comme ça. Après, on se dit, il y a mon réseau, les gens en général, les cadres sont sur LinkedIn, enfin voilà, il y a un réseau, j'ai je ne sais pas combien de milliers d'amis ou de connaissances sur LinkedIn, j'ai mon réseau personnel. Et on essaie ça, et tout ça, ça fonctionne plus ou moins, ça peut fonctionner pour des gens, mais souvent, on va désillusion en désillusion, et désillusion pas simplement économique, mais désillusion humaine aussi, c'est-à-dire des gens sur qui on comptait. Ben, finalement, on ne peut pas tellement compter sur eux. Et puis, le système nous broie petit à petit, parce qu'après vient l'image qu'on renvoie de soi. C'est des choses qui sont concomitantes. J'en parle, par exemple, lui, il avait décidé de se lever de toute façon à 7 heures, de partir et de revenir chez lui, d'enfiler son jogging une fois que tout le monde était parti, parce que l'image qu'il donnait à sa famille était insupportable. Et c'est ça, c'est la lente que j'essaie de décrire, c'est la lente descente qui n'est pas brutale, qui est très lente au contraire, qui justement elle est d'autant plus morbide qu'elle est lente, où on s'aperçoit qu'on n'est plus rien. Et on envie le balayeur du coin, on envie la femme de ménage, on envie les gens qui ont un boulot, qui ont un statut social en fait. Et on n'est plus rien, voilà.
Et ça vient perturber donc la relation à l'intérieur du couple. Ben, c'est ça aussi que vous montrez avec beaucoup de finesse.
Bien sûr, parce qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure. Et enfin, en l'occurrence, je pense que c'est aussi vrai pour la plupart des gens, on a du mal à en parler. Et on a du mal à en parler aux gens. Par exemple, ses enfants, le rapport avec les enfants, il est extrêmement complexe. Il devient extrêmement complexe, puisque, surtout pour Nicolas, qui était le garant de leur sécurité, tout d'un coup, on se dit, mais je ne suis plus en mesure de les protéger eux, de protéger mon enfant, de protéger ma famille. Donc, c'est un gouffre qui s'ouvre devant soi. On a tout d'un coup ce qu'on était. Ben, on change complètement de système de représentation, en fait. Mais en tout cas, l'image qu'il renvoie, par exemple, à ses enfants et à sa femme, il la déteste.
Le désir peut disparaître aussi à l'intérieur du couple.
Le désir disparaît parce qu'on passe son temps, l'énergie, au lieu de la mettre dans une énergie qui serait une énergie positive et qui permettrait d'avoir ne serait-ce que des rapports normaux avec. Tout d'un coup, son énergie est dilapidée de manière négative. On n'est plus rien, on est impuissant, et impuissant dans tous les sens.
J'en venais même à me poser cette question en vous lisant ce roman. Est-ce que l'amour est compatible avec le capitalisme ou l'ultralibéralisme et sa violence, sa dureté?
C'est une question de résistance, encore une fois de plus. C'est-à-dire que c'est une question de volonté. À un moment donné, je ne vais pas raconter le livre, mais à un moment donné, effectivement, on peut décider de... Bon, déjà, l'amour se vend assez bien, donc c'est un objet assez précieux du capitalisme, l'amour. Mais de manière plus sérieuse, à l'intérieur d'un couple, on peut aussi décider, c'est facile maintenant de lâcher. Voilà, on peut reconstruire, on peut... Le problème, ce n'est pas de lâcher, le problème, c'est de tenir. C'est ça qui est dur de nos jours, c'est-à-dire que c'est devenu un peu facile, et ça pose l'idée de comment, oui, c'est ça, tenir, comment résister, en fait.
Et vous l'écrivez d'ailleurs, hein, le vrai courage, c'est de résister.
Oui, et puis on a bien vu, même après les attentats ici, comment les gens, cette conscience-là, que la seule manière, c'était d'être ensemble.
D'où vient chez vous cette sensibilité au contexte social, économique, au monde contemporain, et d'en faire une matière romanesque? D'où ça vient et pourquoi?
Quand j'étais toujours très fortement politisé, et j'observe la politique. Puis après, moi, je suis un grand amateur de toute la littérature anglo-saxonne qui des gens comme Tom Wolfe ou de Linton Franzen ou des gens comme ça qui arrivent à témoigner de manière assez spectaculaire de leurs concitoyens en parlant aussi de choses extrêmement politiques, voilà, environnementales. Enfin, je crois qu'on a toujours envie d'écrire ce qu'on aime bien lire. Et moi, j'aime bien cette idée de contextualiser les personnages et de dire que ces personnages, ils vivent dans une société donnée, de marquer très, très fortement la société.
Enfin, vous renouez aussi avec une tradition du roman français du 19e siècle.
Oui, oui.
Voilà, c'est Balzac ou Zola.
Bien sûr. Oui, la condition humaine, c'est aussi la condition humaine, politique, économique. Enfin, Balzac est le premier à parler énormément d'argent,
de
circulation, voilà, de l'argent.
Qu'on retrouve chez vous aussi.
Ben oui, parce que l'argent est devenu le moteur d'un tas de choses. Pour ça m'intéresse de parler du capitalisme. J'observe simplement, je ne veux pas faire de la politique pour faire de la politique, j'observe simplement les excès d'un certain système, comme il y a eu des excès dans deux systèmes totalement opposés. Mais ça m'intéresse de voir, puisqu'on est dans ce système-là économique, comment est-ce que les dérives sont possibles et surtout ce qu'ils entraînent sur la vie des gens.
La deuxième chance pour un couple, ça existe ?
Oui, moi j'ai connu ça. Oui, ça existe. Oui, je vous dis, je suis le premier témoin de ça. C'est pas un long fleuve tranquille. Et si l'envie de naviguer, enfin je ne veux pas reprendre filer cette métaphore, mais si l'envie d'être ensemble est plus forte malgré tout que tout, on est capable, oui, d'aller au-delà de ses propres névroses.
Et on est capable de reprendre la même chose.
Et on est capable de reprendre la même chose.
On n'en dit pas plus vis-à-vis des lecteurs à venir. Et puis alors, j'insiste, on a beaucoup parlé du contexte qui vous intéresse toujours, politique, économique, sociétal, mais c'est vraiment aussi et d'abord une formidable histoire d'amour. Tout ce dont on rêvait, c'est un roman d'amour, bien sûr. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là.
Bien sûr, c'est ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des personnages, c'est ce qu'ils vivent, parce qu'il faut s'aimer très très fort pour s'aimer de cette façon-là, pour ne pas justement céder. On peut parler d'amour sans parler de la béatitude de l'amour, c'est pas comme ça que ça marche l'amour, c'est plus fort que ça et plus difficile.
Alors vous êtes, je l'avais dit tout à l'heure, l'un des 5 finalistes du prix RTL Lire, qui est un prix de lecteurs. Là maintenant, nos 100 lecteurs membres du jury vont vous lire tous les 5 et auront le dernier mot. Comment on reçoit ça quand on est un auteur là, de cette rentrée de janvier?
Je suis extrêmement touché, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, pour rien vous cacher, se retrouver à côté de Pennac, qui est quand même un auteur que j'ai dévoré.
Notamment la saga Malocène, j'imagine.
La saga Malocène,
pour
moi,
retour.
C'était de la vraie littérature. C'était une sorte de entre Balzac, oui, c'est du même ordre, c'est le côté épique. J'ai pas lu le dernier, mais donc voilà, Pennac, c'était quand même pour moi un mythe. Et puis voilà, se retrouver à côté de gens comme ça, ou même Tanguy Viel, dont j'ai beaucoup aimé les précédents romans, c'est très très très. Enfin, je me sens très honoré.
Merci François Roux, tout ce
Merci
dont
à
on
vous.
Rêvait, publié chez Albin Michel.